midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, mon invité c'est Grace Lee.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous recevoir, vous êtes écrivaine et blogueuse, animatrice du podcast Kif Taras avec Rokhaya Diallo et vous êtes là pour parler de votre premier roman, ça s'appelle Jeune fille modèle aux éditions Fayard. Est-ce que c'est en référence au livre de la comtesse du Ségur?
Alors j'ai lu les livres de la comtesse de Ségur. Non, je pense que c'est plutôt en référence à la jeune fille que j'aurais voulu être, donc le modèle que j'aurais voulu être, et aussi un clin d'œil à cette expression, la minorité modèle, dont on dit que les Asiatiques sont le fer de lance. Donc tout ça, ça m'a donné envie de l'appeler comme ça.
Mmh. Qu'est-ce que votre livre doit à une amie de la maison, Faïz Aghen ?
Alors, je dois beaucoup de choses à Faïz Aghen, parce que déjà, j'adore cette personne. C'est une femme incroyable, généreuse, juste. Voilà, elle a plein de choses pour elle. En plus, elle est belle. Puis elle écrit bien, elle écrit merveilleusement bien. Donc, j'avais lu tous ses romans. Et un jour, j'ai eu la chance de la rencontrer. Alors, ça fait déjà un moment maintenant. Et puis j'ai eu la chance d'être son amie et pendant longtemps je voulais lui dire que moi aussi je rêvais d'écrire. Pendant longtemps je voulais lui dire tu sais moi aussi
j'aimerais écrire mais quoi ?
Voilà, je voudrais écrire un livre mais est-ce que tu voudrais lire ? En fait je me tortillais, j'avais envie de lui montrer mais j'avais peur que si c'était vraiment nul qu'elle veut plus jamais me parler ou que en tout cas pire que ça c'est qu'elle se sente embarrassée et qu'elle sache pas comment me le dire. Donc du coup, un jour quand même, je me suis lancée. Je lui ai dit, tu sais Faïza, voilà, je sais que on t'est très sollicitée, mais je pourrais te faire lire quelque chose. Elle m'a dit, mais bien sûr, ma chérie, comme elle est vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Et elle l'a fait. Et elle m'a rappelé en me disant que elle serait ravie de m'accompagner dans ce travail. Et donc bon, pour moi, c'était le bingo. Et elle a été directrice littéraire de ce livre.
Voilà, de votre premier roman. Est-ce que la morale du livre, c'est que finalement, utiliser dans la vie des mots simples pour parler des choses compliquées, c'est ce qu'il faut faire ?
Alors, je ne sais pas s'il n'y a qu'une seule morale à un livre.
C'est le café qui vous fait faire cette grimace-là ?
Non, mais je pense que chacun voit dans un livre ce qui lui parle par rapport à son vécu. Donc moi, la morale de ce livre... pour moi, c'est déjà de me dire que j'ai mis un point final et j'ai rendu réalité un rêve qui m'était un rêve d'enfant qui m'a longtemps travaillé. Donc c'est plutôt ça ma morale personnelle. Ensuite,
le rêve d'enfant ? C'était de pouvoir voir votre nom sur une couverture et d'arriver au bout de l'écriture d'une histoire ?
Non, pour moi, mon rêve d'enfant, parce que quand j'étais enfant, donc je suis née en France, et je lisais beaucoup de livres quand j'étais enfant, et c'était des livres avec des personnages qui ne me ressemblaient jamais. J'ai lu, comme vous l'avez dit, La Comtesse de Ségur, je voulais être Sophie, dans Les Malheurs de Sophie, j'ai lu beaucoup de livres auxquels je me suis identifiée très fortement, mais aucun des personnages n'avait les mêmes cheveux que moi, les mêmes yeux que moi, ou alors, si c'était le cas, il vivait dans une autre contrée où il parlait une autre langue. Et en France, à la bibliothèque municipale que je fréquentais assidûment, il n'y avait pas de livre avec une héroïne avec les mêmes yeux que moi. Donc moi, c'est ça mon rêve d'enfant, c'était de lire un livre dans lequel le personnage était une jeune fille avec les mêmes problèmes que moi. Et pour le coup, le physique et la culture d'origine est très importante, puisque quand on est enfant, et ben c'est aussi notre quotidien, ça. Mmh. Voilà. Donc ce rêve-là,
le modèle d'identification, finalement.
Oui, c'était ça. C'est-à-dire, parmi toutes les références littéraires que j'ai, j'aurais voulu avoir une référence d'une femme, d'une jeune fille qui ait vécu la même vie que moi.
Alors, votre héroïne s'appelle Chichi. À quelle distance vous en êtes de cette héroïne ? Parce que c'est un roman, donc qu'est-ce qu'il y a de vous ?
Alors j'ai mis beaucoup de choses de moi en cette jeune femme. Il y a beaucoup de choses.
Hein, vous voyez, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, vous auriez aimé des héroïnes, mais par exemple, ce que votre héroïne n'aime pas, Chichi, c'est qu'on la renvoie à un personnage de manga.
Ah oui, parce que le personnage de manga, qui peut s'identifier à un personnage de manga? Un personnage qui vole et qui a des cheveux roses, vous pouvez vous identifier, vous? Non, personne ne peut s'identifier
à ça. Non, pour d'autres raisons.
Non, mais le manga, déjà, c'est une tradition japonaise et c'est des histoires absolument exubérantes. C'est de la science-fiction, en fait, le manga. C'est pas du tout la réalité. Moi, je parle d'une identification à des personnages de la vie quotidienne, pas seulement des super-héros, mais autre chose. Donc
des personnages normaux.
Voilà, c'est ça, normaux.
Si la norme existe. Qu'est-ce qu'elle répond à la question « Toi, t'es vraiment chinoise de Chine, tu viens d'où ?»
Alors la question « Tu viens d'où ?» Je ne sais pas si d'autres auditeurs ou auditrices la reçoivent souvent, mais moi en tout cas on me demande souvent d'où je viens. Et quand je dis que je suis française ou que je suis parisienne, parce que c'est le cas, ils me disent « Non, t'es pas vraiment française, t'es pas vraiment parisienne. »
Mais
t'es d'où vraiment ? C'est bien ça la question, vraiment. Et à cette question-là, en fait, moi, je suis née en France, donc en réalité, moi, je ne suis nulle part d'ailleurs que d'ici. Par contre, ma famille est venue d'ailleurs, et en fait, c'est ça la question. C'est d'où vient ta famille, finalement, on peut le dire franchement. D'où t'as ses yeux, d'où t'as ses cheveux, d'où t'as cette couleur de peau, d'où t'as cet air que tu as. Donc moi, mes parents sont chinois du Cambodge et ils viennent du Cambodge.
Alors que pour votre héroïne, longtemps, elle était chinoise, c'était point barre, quoi.
Oui, c'est-à-dire que...
Chinois, c'était chinois, et puis il n'y avait pas besoin de préciser.
Oui, c'est-à-dire que moi, mes parents sont chinois du Cambodge, et ils m'ont transmis la culture chinoise. Après, effectivement, pour Chichi, je pense que c'est ce que j'ai... Au début, on s'imagine... Chinois du Cambodge, c'est très compliqué comme...
Votre héroïne veut savoir, à partir du moment où elle sait qu'on rajoute le mot Cambodge, elle veut savoir l'histoire qu'il y a derrière, finalement, et s'est noyée derrière une chape de plomb, un secret familial, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça.
Comme si cette histoire, elle devait être tue. Ce qui s'est passé avant ta naissance, eh bien, on va pas te le dire parce que c'est trop douloureux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Chichi, elle est chinoise... Enfin, ses parents sont chinois du Cambodge, donc... ses parents sont déjà une deuxième ou une troisième génération du Cambodge. Et elle-même, elle est une deuxième génération en France. Donc tout ça, c'est très compliqué à remonter ce fil générationnel. Et le Cambodge est un pays qui a connu une tragédie...
génocidaire.
Un génocide sanglant qui a tué plus d'un tiers de la population entre les années 75-79. Et évidemment, donc c'est très récent, et les survivants de cette période historique ne sont pas encore, pour la plupart, en tout cas, enfin moi c'était le cas de mes parents, et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens, ne sont pas prêts à parler. Donc il y a une difficulté à dire l'indicible, et c'est cette histoire-là que je raconte dans ce livre-là, c'est-à-dire que cette jeune fille n'a pas vécu le génocide, mais elle vit au milieu de survivants qui font un deuil qui est impossible, car ils ne savent pas ce qui est arrivé à leurs proches et à leur famille. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, parce que je n'ai pas de légitimité à parler du génocide, parce que je n'ai pas vécu. Par contre, j'ai une légitimité à parler de comment on fait quand on vit parmi les survivants et qu'on vit parmi les morts aussi.
Oui, parce que cette jeune fille, elle vit avec cette injonction familiale qu'il ne faut pas fouiller le passé.
Oui.
On lui ferme la porte à chaque fois. C'est sa grand-mère, elle dit, il faut pas fouiller le passé, carrément, tu vas le regretter.
Oui, sa grand-mère, apparemment, c'est quelque chose qui lui est trop, c'est trop dur pour elle. C'est-à-dire que vous avez du mal à reconstruire une vie après le drame, et lorsque quelqu'un d'autre vous demande ce qui s'est passé. Vous avez du mal à... Voilà, c'est encore trop frais, c'est trop difficile. Et c'est ce qui se passe pour cette jeune femme, c'est qu'elle a besoin de savoir, parce qu'elle voudrait avancer, elle veut savoir d'où elle vient, elle veut savoir où elle va. En revanche, elle n'est pas... Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui c'est du passé, ils ont mis tellement de temps, ils ont mis tellement de mal à le mettre derrière eux, qu'ils ne veulent surtout pas remuer le couteau dans la plaie.
C'est pas pour ne pas dire, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire.
C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire, et pour les survivants et pour les autres, il faut accepter cette. Et pour moi, c'était très difficile d'accepter ça, puisque si vous ne me racontez pas, à qui je le demande? Mais j'ai demandé à d'autres gens, j'ai demandé à des gens qui l'avaient dit, pour qui c'était c'est plus facile de le faire. J'ai lu des livres, des personnes qui ont raconté cette période-là. Mmh. Et du coup, j'ai pu me projeter en me disant, bon voilà, ce que me dit pas cette famille.
Mais vous avez, vous êtes allé vers vos oncles, vos tantes les interroger.
Oui, bien sûr. J'ai demandé à ma famille quand je fais ce travail pour le livre de me dire voilà qu'est-ce qui s'est passé dans la famille et tout le monde, enfin chacun en fonction de qui il est m'a raconté des choses différentes. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui la porte était fermée, d'autres pour qui la porte était grande ouverte parce qu'ils avaient besoin d'en parler. Et il n'y a pas alors là dans le livre je parle d'une certaine personnalité, hein, cette grand-mère qui incarne la force et le
qui a un double visage, enfin qui porte un masque en tout cas.
Oui, voilà. Bien sûr.
On va dire la grand-mère, elle a un masque et beaucoup plus forte qu'il n'y paraît finalement.
Absolument.
Et plus pleine de ressources.
Oui, c'est une grand-mère qui a vu les siens mourir de ses propres yeux et qui du coup s'est forgée une carapace pour survivre à ça, pour continuer à vivre. Comment fait-on quand on voit ses propres enfants mourir ou ses proches? C'est difficile. Moi, je l'ai pas vécu, donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. C'est qu'elle a dû pour continuer à vivre sa propre vie, se trouver une raison et du coup et aussi de trouver une carapace, de trouver une force et c'est ce qu'elle transmet à sa petite fille et sa petite fille du coup comprend aussi ça d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens.
Enfin, elle le comprend même si elle se rebelle. Enfin, elle le comprend sans le comprendre en fait. On voit qu'elle évolue au fil du temps.
Mmh. Oui.
Et finalement, elle est moins. Elle est moins dure finalement avec sa grand-mère, avec sa mère, avec le temps
sûr,
qui passe.
Oui, quand on sait, quand on comprend les autres, on est moins dur avec eux. De toute façon, quand on comprend ce qu'ils ont vécu, par quoi ils sont passés, on comprend l'humanité en eux. Donc forcément, ça nous rappelle nous-mêmes. Donc je pense que oui, que cette jeune fille, le fait de ne pas savoir, ça, c'était pire. Et le fait de pouvoir mettre des mots sur un passé, même s'il est douloureux, ça l'aide à pouvoir avancer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais en tout cas pour elle.
Ce qui veut dire que parfois c'est utile d'ouvrir la boîte à secrets.
Ah oui, ça dépend. J'imagine que ça dépend. Peut-être que il y a une question de maturité, il y a une question d'âge. Peut-être que cette jeune fille-là, il y a une question de circonstances aussi, parce que on parle pas des circonstances dans lesquelles ça se passe, mais cette jeune femme, elle vit quelque chose de très grave aussi au sein de sa famille, c'est-à-dire que sa mère
est en train de mourir.
Elle se trouve dans l'incapacité de parler, et du coup, elle se dit mais mince, alors si ma mère ne me dit pas. Comment je vais faire pour savoir? Donc, elle se trouve dans l'urgence de poser la question. Peut-être que cette urgence-là, on ne la vit pas quand on n'est pas confronté à cette situation-là. En tout cas, c'est l'imminence de la...
C'est l'urgence qui fait que ça devient de plus en plus important.
Oui, là, voilà. Dans ce récit, il y a une urgence liée à la condition de la maman. Et du coup, la jeune fille, Chichi, elle doit faire avec. Moi, je n'ai pas vécu cette urgence-là. J'ai mis beaucoup plus de temps à apprendre l'histoire de ma famille et à trouver en moi les ressources pour aller vers eux, puisque c'est aussi une question de. Il y a aussi beaucoup de pudeur dans cette relation-là. C'est-à-dire que quand nos aînés ont été pudiques à l'égard pas de leur corps, mais de leur esprit et de leur âme. Moi aussi, j'ai eu une grande pudeur à leur demander, mais alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque je me suis bien dit qu'ils avaient une raison de ne pas me raconter.
Et vous aviez quel âge quand vous avez trouvé la force de le faire?
C'était très récent pour moi. Moi, j'ai 39 ans.
D'accord, oui. Donc c'était pas à l'adolescence ou au
absolument pas. Ouais. Et d'ailleurs, j'aurais aimé maintenant que c'est pour ça que c'est aussi un modèle pour moi parce que je me dis, mais si on fait ça plus tôt, est-ce qu'après on vit une vie différente?
Jeune fille modèle, c'est le titre de votre premier roman, Grassley, et on en parle jusqu'à 13h dans le Book Club.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club a lu pour vous le premier roman de Grassley, qui est notre invité ce matin, jeune fille modèle aux éditions Fayard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un changement de perspective est parfois plus utile qu'un grand discours.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et là, le changement de perspective, c'est peut-être que de voir la vie dans la peau et avec les yeux de votre héroïne Chichi.
Oui, c'est vrai que... Chichi, donc elle est née en France et elle va à l'école française, donc elle est très imprégnée de la culture dominante française. Et ses parents, sa famille, elle les voit aussi avec ces yeux-là. Parfois des yeux d'étrangers, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas. exactement pourquoi ils sont comme ils sont. Et vous savez, dans les traditions dans une famille, on vous explique pas pourquoi on fait les choses. On fait les choses simplement. C'est-à-dire que moi, quand je suis à table avec ma famille, ils m'expliquent pas pourquoi on mange ça ou ça, ou pourquoi on mange de telle manière. On le fait. Et donc pendant des années, j'ai fait des choses que je ne comprenais pas. Et quand je parle de changement de perspective, c'est qu'à un moment, on se pose des questions et puis on met des mots dessus et du coup, voilà, c'est vrai que la perspective change.
Sauf que Chichi, quand elle pose des questions, on lui dit une jeune fille bien élevée ne pose pas de questions. Ou une enfant ne pose pas de questions.
C'est vrai que c'est quelque chose que moi, dans lequel je me retrouve parce que quand j'étais enfant, je n'étais pas encouragée à parler aux adultes. D'ailleurs, il y avait une certaine distance, une espèce de respect des aînés qui se manifestait de la façon suivante. C'était que si je n'étais pas sollicitée, c'était mal poli pour moi de m'adresser aux adultes directement. D'ailleurs, je n'avais pas le droit de les regarder dans les yeux. C'était quelque chose de très mal poli de regarder une personne plus âgée par respect dans les yeux. Je ne l'appelais pas par leur prénom, mais par un titre. Donc tout ça, c'est des codes qui existaient dans ma famille et dans d'autres cultures.
Et c'est vrai chez tout le monde, hein, donc dans toutes les familles autour de vous, j'imagine, étaient comme ça.
Absolument, mais voilà. Par contre, c'était très différent de comment c'était à l'école. Parce que moi, j'étais à l'école française, ouais. Et ne pas regarder quelqu'un dans les yeux, ne pas m'adresser à un adulte, notamment mon professeur, ma professeure, c'était quelque chose de compliqué. Donc, voilà, donc quand je parle de changement de perspective, c'est ça aussi, c'était que les codes, on les a pour un milieu. Et puis, il faut, quand on a une double culture, quand on est enfant d'une migration, il faut pouvoir se déshabiller et se rhabiller rapidement pour prendre les autres codes de l'extérieur.
Pour être à sa place partout, finalement.
Absolument, s'adapter.
Mmh. Et elle, quand on lit son histoire, ce qu'elle veut plus que tout, c'est d'être comme les autres.
Oui, je pense que quand on est adolescent, c'est le cas de Chichi dans ce livre, elle est au lycée. Quand on est adolescent, la chose la plus importante, la plus prioritaire, c'est d'être comme les autres, de ne pas sortir du lot et de ne pas se faire remarquer, en tout cas pas d'une manière négative. Je pense que c'est aussi le cas dans la société d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'on est confortable quand on ressemble aux autres, on est confortable au sein de la meute, de la troupe, et que on ne fait pas de vagues. Et c'est quelque chose aussi qui se retrouve dans l'immigration, c'est-à-dire que quand on est enfant d'immigrés, nos parents nous disent, enfin moi mes parents m'ont dit en tant qu'immigré, ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer, surtout pas en mal, parce que il faut absolument qu'on s'intègre. Et on a vécu tellement de choses difficiles que maintenant il faut que ça s'arrête.
Ouais, mais il y a en plus une dimension. Il y a cette dimension que vous évoquez sur le travail, donc il faut travailler dur et ne surtout pas se faire remarquer. Mais il y a cette idée que finalement les Chinois, on les aime mieux parce qu'on les entend jamais et que c'est pas comme les autres.
Ah oui,
finalement,
c'est ça.
Que c'est l'oncle de votre héroïne qui le dit. Finalement, il faut qu'on soit invisible.
Oui, il y a une vraie réflexion autour de la minorité modèle dans les pays qui accueillent des migrants. Hein. Donc, il y aurait une minorité, des immigrations désirables et d'autres non désirables. Et les Asiatiques font partie de ces populations qui ont cette réputation. Hein. Donc, c'est quand même
de travailleurs, par exemple.
Voilà, c'est ça. C'est qu'ils seraient travailleurs, ils seraient discrets et du coup bien intégrés. Et ça, c'est que des fantasmes parce que moi, je connais beaucoup d'enfants d'immigrés et il n'y en a aucun d'entre eux qui m'ont dit mes parents c'était des gros feignants. Quand vous êtes immigré, la première chose que vous faites quand vous arrivez quelque part, c'est bien de cravacher. Donc ça, c'est cette idée de minorité modèle, c'est quelque chose qu'on nous sert depuis politiquement depuis très longtemps et qui finalement dessert les gens qui sont dans cette case ou qui sont à l'extérieur de cette case. C'est un instrument pour nous comparer les uns aux autres et pour nous dire vous les Asiatiques, on vous aime bien, pas comme les autres qui seraient fainéants, justement, qui vivraient sur les allocations familiales, qui seraient des gens non désirables dans notre société, et qui n'êtes pas vous, voilà.
La mère de votre héroïne, Chichi, elle croit vraiment aux vertus de l'école républicaine et à l'ascenseur social. Est-ce que c'est quelque chose que vos parents vous disaient?
Mais
travaille bien à l'école pour t'en sortir, voilà, avec tout ce qu'on a fait pour toi, avec ce côté de génération sacrifiée d'une
Absolument.
Certaine façon.
Moi, mes parents, donc ils étaient réfugiés politiques à leur arrivée en France, et ils m'ont toujours dit qu'ils voulaient pour moi une vie qu'ils n'avaient pas eue. C'est-à-dire qu'ils ont voulu me donner quelque chose que eux n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un diplôme. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir ci ou d'avoir ça. Et c'est, évidemment, quand vous avez des enfants, vous voulez pour eux le meilleur et vous voulez pour eux quelque chose que vous avez eu du mal à vous palper du doigt. Donc mes parents m'ont dit oui, travaille bien à l'école parce que c'est grâce à l'école que tu auras accès au savoir et que tu auras accès à une vie meilleure que la nôtre. Donc oui, travailler dur à l'école, c'était quelque chose pour eux de très important.
Et ça a fait de vous une élève modèle ?
Pas du tout. j'étais assez moyenne à l'école, je dois l'avouer. J'étais pas parmi les dernières, mais j'étais pas non plus la plus brillante. Mais parce que j'étais asiatique, on m'a souvent collé cette étiquette de première de la classe, alors que je n'ai jamais été première de la classe. Parce que les enfants asiatiques, on leur dit oui, bah vous êtes plutôt bon élève, vous foutez pas le box, hein, vous êtes plutôt des bons éléments dans une classe. Et encore une fois, c'est par comparaison.
C'est le syndrome du Pygmalion, en fait.
Ouais. Ah, ouais.
C'est comme ça qu'on appelle ça.
D'accord.
Vous avez vécu le racisme à l'école et comment est-ce qu'il s'exprimait ?
Oui, en tant que moi je suis donc ça se voit que je suis que mes parents sont étrangers, hein, puisque sur mon visage se lit le parcours qu'ils ont fait. Mais j'ai des yeux qu'on dit en amande, j'ai des cheveux noirs lisses.
Pourquoi vous dites les yeux en amande et pas bridés ?
Alors moi j'aime pas le mot bridé.
C'est pour ça que je vous pose la question. Mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le mot bridé ?
Alors j'aime pas le mot bridé parce que en français le mot bridé n'est pas utilisé pour décrire une forme. Quand vous dites bridé, c'est quelque chose de limité.
Vous
débridez un moteur de scooter. Vous vivez une vie débridée. Rien de ce qui est bridé n'est souhaitable en français. Je parle de la langue, hein,
D'accord, bien sûr.
Et donc moi, quand on me dit les yeux bridés, j'ai l'impression que mes yeux ne sont pas au maximum de leur capacité, ce qui est faux, puisque je vois très très bien avec mes yeux. Je vois comme vous, Philippe.
Alors, ne vous comparez pas avec moi au niveau des yeux, mais par contre, vous avez les yeux en amande.
Oui, voilà. Je dis en amande ou n'importe quoi, mais en fait, les gens, c'est vrai qu'ils se sentent toujours obligés de qualifier mes yeux comme s'ils étaient, fallait les sortir du lot. Mais voilà, effectivement, j'ai une forme d'yeux qui rappelle une contrée lointaine. Donc quand j'étais petite, enfin même aujourd'hui au quotidien, on me dit souvent que je suis différente et que je ne serais pas vraiment française. Et le racisme au quotidien, c'est un peu ça, c'est ce racisme qu'on appelle ordinaire. Et un autre concept que je trouve absolument aberrant, puisque rien n'est d'ordinaire quand on subit du racisme. Mais un racisme quotidien où on vous rappelle constamment que vous n'êtes pas d'ici, que vous n'avez pas votre place ici.
Et comment est-ce qu'il se verbalisait donc à l'école ce racisme ?
Alors on me disait, d'ailleurs je voudrais dire à vos auditeurs et les auditrices que si vous l'entendez de vos enfants, il faudrait leur dire que c'est pas bien. Alors ching chang chong, c'est quelque chose, ching chang chong, c'est une insulte aux personnes qui me ressemblent, d'origine asiatique. On ne dit pas ching chang chong à des gens parce que ching chang chong c'était quelque chose pour désigner les asiatiques parce que leur langue serait tellement bizarre que ça fait ching chang chong à nos oreilles. Donc ça, c'est un relent du colonialisme, de la domination d'une culture sur une autre.
En tout cas, il faut expliquer aux petits enfants si vous les entendez dire pourquoi il ne faut pas le dire.
C'est une insulte, de même que shintok, Niakwe, tous ces termes ont été créés pour se moquer des personnes asiatiques.
Et sa mère l'appelle la petite banane. Est-ce que c'est péjoratif finalement ?
Oui, c'est très péjoratif, hein, la petite banane. C'était pour la mère de Chichi et d'ailleurs pour ma mère aussi, la manière de dire que tu es jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Parce que tu aurais renié tes origines
Là, il y a pire, il y a le beignet de petite banane.
Le beignet de petite banane, c'est celle qui n'écoute rien.
Voilà. Bien, on va écouter une chanson que j'ai découverte grâce à votre livre. C'est un tube, soi-disant, des mariages cantonais. Ça s'appelle More Than I Can Say.
Ah, oh, j'adore.
Vous nous expliquez pourquoi c'est un tube
Alors,
je connaissais pas du tout la chanson, moi.
Eh ben, c'est Teresa Teng qui chante. C'est la version que vous avez prise, Teresa Teng.
Alors, on va passer celle-là.
Oui, parce que c'est pas la seule à l'avoir chantée.
Parce qu'il y en a plein, mais voilà. Alors, Teresa Teng, qui est-elle?
Alors, Teresa Teng, c'est une chanteuse d'origine taïwanaise, qui a, en son temps, aujourd'hui elle n'est plus des nôtres, qui a, en son temps, enflammé l'Asie, puisqu'elle était vraiment très populaire en Asie. Ma mère était une grande fan de Teresa Teng. Donc, elle chante des chansons mélancoliques ou bien d'amour et voilà.
Et c'était un tube.
Ah, c'est un tube.
Oh.
revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Grace Lee, l'invité du Book Club aujourd'hui à l'occasion de la publication de son premier roman, et il s'appelle Jeune fille modèle aux éditions Fayard. Grace Lee, vous êtes d'accord avec ça? Tout ce qui ne nous rend pas nous rend plus fort? Ou finalement c'est stupide?
Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort?
Ouais.
Parfois. Mais pour moi, c'est pas une. Rien n'est absolu hein, de toute façon, mais c'est pas forcément. Moi, il y a des choses qui ne m'ont pas tué et qui m'ont rendu plus faible. Hein.
Il y a cette scène qui est quand même à mourir de rire, c'est le jour où elle décide de se décolorer les cheveux, enfin colorer les cheveux en blond. Ça vous est arrivé, ça, vous?
Oui.
De vouloir finalement se dire, ben voilà, je vais être blonde maintenant.
Ah oui, c'est vrai que être blonde, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose d'assez souhaitable, parce que d'ailleurs, tous les films que je regardais, les séries pour les enfants, il y avait beaucoup d'héroïnes blondes, et d'ailleurs, c'était souvent elles qui emballaient le beau mec, donc c'était jamais la petite chinoise comme moi. Donc oui, je voulais être blonde, ouais.
Vous avez réagi récemment aux propos de Yann Moix qui a confié dans une interview n'être intéressé que par les femmes originaires d'Asie. Alors c'était la fameuse interview où il parlait des femmes de moins
plus de
50 ans. Hein. Il disait je ne sors qu'avec des Asiatiques, essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises, et je ne m'en vante pas. Bon.
Ah bon? Parce que là clairement. Non,
c'est ce qu'il disait dans l'interview de Marie-Claire. Hein, voilà. Mais il sous couvert de grandes franchises. Oui, mais bon, moi je suis franc.
Oui, il y a ce truc-là, en ce moment, ils appellent ça la parole décomplexée. Mais en fait, il vaudrait mieux qu'ils soient complexés, ces gens-là, non? Hein?
Mais finalement, ça fait énormément de buzz.
Oui, ça lui fait... Enfin, moi, j'en connais plein des gens comme lui. Hein. Je connais beaucoup de Yann Moix, hein, donc, qui décrète être attiré par une seule catégorie de femmes qui se ressembleraient toutes. Moi, j'en connais pas mal. Hein,
ça
donc,
s'appelle la Yellow Fever, ça a été conceptualisé.
Oui.
Mais quel est l'impact, finalement, de paroles? Parce que finalement, sur la partie chinoise et asiatique, il a été moins condamné que sur la partie des femmes de 50 ans. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Hein.
Oui, c'est vrai.
Quel est l'impact des stéréotypes qui sont véhiculés par quelqu'un qui a pignon sur rue, finalement, à la télévision?
C'est plus ça, le problème que vous mettez le doigt dessus, Philippe, c'est que perpétuer des clichés racistes et sexistes et d'autres choses qui n'allaient pas dans ces propos dans l'espace public et de ne pas déconstruire ces idées-là, c'est un problème, puisque cette personne est effectivement à pignon sur rue, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il a une émission à son nom, il a été chroniqueur du service public pendant très longtemps.
Il va sur tous les plateaux. Moi, je l'ai entendu se justifier, enfin, il a été invité sur beaucoup de plateaux, alors qu'il y avait quand même autre chose dans l'actualité ce jour-là, je veux dire, plus important. Hein.
Donc oui, c'est un problème de colporter ce genre de propos, parce que dire, enfin, de considérer que les femmes asiatiques, c'est une catégorie, vous savez, c'est un continent, l'Asie, donc les femmes asiatiques, elles ne se ressemblent pas, elles n'ont rien en commun, à part ce que vous projetez sur elles. Donc, ça n'existe pas, la catégorie des femmes asiatiques, c'est juste des fantasmes, qu'elles seraient plus dociles, qu'elles seraient plus malléables, qu'elles seraient... Donc, c'est à la fois sexiste et raciste de réduire des femmes asiatiques à des qualités qui n'existent pas. Et de colporter, donc, ces propos racistes et sexistes, ce n'est pas bien. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas là, je suis pas sa maman, donc je vais pas lui dire c'est pas bien. Mais arrêtez de lui donner la parole.
Oui, c'est ça. Simplement, faut dire attention. Il faut aussi, peut-être pas donner, parce que c'est comme Zemmour, ces gens-là, finalement, ils ont la parole partout.
Mais oui, cette personne a succédé à Eric Zemmour,
oui,
hein, sur ce plateau-là,
ouais.
Et donc, enfin, sur le service public, dans l'émission. Donc oui, effectivement, c'est un problème de donner la parole à des gens qui véhiculent des idées qui sont du passé.
On l'a remarqué, vous aimez bien les mots précis. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le mot communautariste et par quoi préférez-vous le remplacer? Qu'est-ce qui serait plus juste d'utiliser comme mot?
Alors moi, je trouve que le mot communauté est un mot résolument positif. Le mot communauté, c'est porteur de valeur, porteur de partage, et ce n'est jamais synonyme pour moi d'exclusion. C'est-à-dire que si moi j'aime la chasse, c'est pas dire que j'aime pas la pêche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la communauté des
ça
valeurs.
S'ajoute.
Oui, absolument. C'est
ça,
comme les identités.
Ça ne pose pas, finalement.
Absolument.
Ouais.
Et donc je trouve que le mot qu'on a créé en France et qui n'existe que dans la langue française, le mot communautarisme, c'est un problème. Enfin, pour moi, je vois pas. Je suis. Ça me non, j'aime pas ce mot, voilà. Je trouve que le mot communauté, c'est positif parce qu'on partage des choses positives. Maintenant, quand ça devient négatif, ce n'est plus une communauté, c'est autre chose. Vous voyez, donc j'aime pas ce mot parce que on y projette encore beaucoup de fantasmes. Parce qu'on se ressemblerait et qu'on se retrouverait, on exclurait forcément les autres. Ce qui n'est pas le cas, c'est faux. Moi, je suis avec je travaille avec des personnes asiatiques sur la représentation des personnes asiatiques en France et nous ne sommes pas fermés d'esprit parce que nous sommes entre nous. Vous voyez, c'est entre nous. En plus, ça veut dire quoi, entre nous? Vous voyez, on est français. On est français et puis on est d'ailleurs. Donc, on met juste en commun des compétences et pour faire autre chose ensemble.
Mmh. Vous rajoutez à l'histoire des origines de Chichi l'histoire de sa filiation. Pourquoi est-ce que vous avez rajouté cette histoire de filiation?
Par rapport à son père.
Ouais, par rapport à son père, ouais, parce qu'elle ne sait pas qui est son père, finalement.
Oui.
Elle ne le sait pas et elle l'apprend dans des conditions. Voilà, que vous découvrez dans le, dans le livre. Mais pourquoi avoir rajouté cet élément-là?
Alors, je pense que...
Parce qu'elle avait sa question des origines.
Oui.
Et puis, il y avait aussi ce père, voilà, mystérieux,
oui.
Dont on ne parlait pas, ouais. Dont on ne savait pas d'où il venait, dont on ne savait pas s'il était mort ou vivant, vous voyez.
Oui, c'est vrai que j'ai pas eu... Votre question me prend un peu de cours parce que je n'ai pas du tout réfléchi à ça avant.
Mais est-ce que c'est quelque chose de personnel?
Ah non, pas du
tout. Non, parce que vous avez grandi avec vos parents.
Absolument.
Donc.
Ouais. Moi, j'ai toujours connu mon père, donc non, c'est pas du tout en référence à ce que moi j'ai vécu. Oui, peut-être que la question de la figure paternelle absente, c'est un livre où il y a beaucoup de femmes, hein, de toute façon.
Il y a que des femmes fortes en
oui.
plus.
C'est un livre où il y a beaucoup de femmes, parce que dans ma famille, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes, donc j'ai
y compris
j'ai
les tantes,
projeté.
Enfin voilà, il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a les tantes
oui,
qui sont importantes.
C'est une famille où les femmes sont fortes, tout en restant insérées dans une société patriarcale, hein, parce que c'est quand même le cas. Donc non, je sais pas pourquoi.
Ce père, finalement.
Ouais, cette filiation, ce besoin de savoir aussi ses racines et de savoir exactement qui sont nos parents. Je pense que c'était pour moi une manière de la rattacher à l'histoire aussi du Cambodge, le fait que la tragédie parfois sépare les gens et les unit d'une manière qu'on n'attend pas. Je pense que c'était plutôt dans ce sens-là que je me suis dit que il y avait des drames familiaux, des drames personnels qui étaient liés à l'histoire, et notamment cette histoire-là est liée à la tragédie du génocide cambodgien.
Oui, c'est une double tragédie finalement. On termine cette émission avec une énorme star. Il a rempli Bercy en quelques minutes récemment. Il s'appelle Jackie Chung.
Oui, Jackie Chung, Chung Ha Yao. Donc c'est une énormité hein, de Hong Kong. C'est quelqu'un qui a fait des albums, et je pense qu'il en a 60 à son actif. Hein, donc c'est vraiment. Et donc moi j'ai beaucoup aimé son travail. Bon, il fut un temps. Et là, dans ce livre, j'ai.
Vous avez ressorti tous ceux que vous aimiez peut-être il y a quelques. Un peu de nostalgie finalement.
Oui, c'est vrai que moi il y a beaucoup de nostalgie dans ce livre, et donc ce chanteur, il a chanté, je sais pas quel titre vous allez mettre, notamment
celui que vous voulez.
Ah oui. Bah alors, Tang Ne Tang Dong Rasam Tong, c'est le titre que je mets dans le livre. C'est un titre que j'ai connu.
Ça va m'aider, vous voyez. Quand je vais aller à la discothèque, là, vous voyez, tout à l'heure, là, vous m'aidez.
Je suis sûre que vous allez le trouver du premier coup. Et c'est un titre qui est très, très, très populaire au karaoké aussi. Si vous allez dans le 13e ou dans d'autres quartiers chinois.
Je peux vous proposer Peter et Sloan, mais pour des tas de raisons et parce qu'on connaît mieux la chanson. Je préférais qu'on partage Jackie Chung avec vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Merci, Grâce.
Dans les mouilles, c'est pour une dénâme. Dans mon monde, je ne peux pas t'encore venir. Puis, dans son site, mon lanceau, il fait ça. 就你教我相信依然未够，但你没带走梦里的所有，让你走，为何让你看不透？但求你未淡忘往日旧情，我愿默然带着泪流，恨上一。
生跟你走，就算天边海角多少改变，一生只有风中追究，不想孤单的逗留，但求你未淡忘往日旧情，我愿默然带着泪流，很想一生跟你走，在我心中的你，思海的你，今生不可不能没有。在你每次抱怨的眼眸，像我永远不懂给你温柔，别再诉说我俩早已分手，像你教我伤心依然未够，但你没带走梦里的所有，让你走，为何让你看不透？但求你未淡忘往日旧情，我愿默然带着泪流，很想一生跟你走。就算天边海角多少改变，一生只有风中追究，不想孤单的逗留。但求你未淡忘往日旧情，我愿默然带着泪流，很想一生跟你走。在我心中的你，思海的你，今生不可不能没有。往日旧情，我愿默然带着泪流，很想一生跟你走。就算天边海角多少改变，一生只有风中追究，不想孤单的逗留。但求你未淡忘往日旧情，我愿默然带着泪流，很想一生跟你走。在我心中的你，思海的你，今生不可不能没有。
Dimanche de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.